Donc les critères de discernement, ce seront aussi par rapport à cette personne en particulier. C'est important de dire, justement, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Vous vous rappelez cette parole de l'Écriture qui dit, elle n'est pas loin de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire, même si vous avez fait des mauvais choix par le passé, vous avez eu des moments peut-être compliqués dans votre vie, des actes manqués, etc. Bon, c'est important de se rappeler que Dieu continue d'appeler, de façon générale. Hein. C'est ce que le père Rainero Cantalamessa, qui était le prédicateur de la maison pontificale, du pape, appelle le GPS guidé par le Saint-Esprit. Quand, si en venant ici, vous êtes trompé de route, etc., il recalcule. Voilà, donc je trouve ça important de se dire que le Seigneur a une suite dans les idées, pour ainsi dire, et continue de nous appeler, même si on a fait des mauvais choix, etc. Il y a toujours deux aspects dans les critères de discernement, l'aspect subjectif et l'aspect objectif. Et aucun critère ne se suffit à lui-même, c'est plutôt un faisceau d'indices, c'est quelque chose, voilà, donc n'absolutisez pas une chose. L'aspect subjectif, c'est c'est des critères qui sont dans le sujet qui discerne. Et là, il y a plusieurs aspects. Premièrement, le désir. À quoi on voit qu'il y a un vrai appel, c'est qu'il y a un désir de cheminer ensemble. Vous vous projetez l'un avec l'autre. Vous avez de la joie, on verra aussi. Voilà. Le désir intérieur de faire la vie commune avec cette personne. Le désir intérieur, ça c'est vrai pour toute forme de décision, hein. Le désir de vous engager dans telle ou telle activité professionnelle, ou etc., etc. Je pense que ça, c'est d'abord à descendre dans votre cœur, c'est-à-dire vraiment vous approfondir, rentrer dans une intériorité pour voir qu'est-ce que vous désirez. Sachez écouter votre cœur, ce qui est source de bonheur, ce qui vous rend profondément heureux. Laissez-vous enthousiasmer par le beau, le vrai, le bien. Je pense à ça, cette question du désir, qu'est-ce que je. Et parfois, par manque de vie intérieure, on n'arrive pas à mettre les mots sur son propre désir. Ensuite, un autre point, c'est arriver à une certitude intérieure. Alors, ça, c'est peut-être le point le plus compliqué, c'est par rapport à un choix, et singulièrement à un choix de couple. Et à l'intérieur du mariage à l'église qui est irrévocable, etc., arriver à une certitude intérieure. C'est important, c'est on ne s'engage pas dans un flou absolu. On ne s'engage pas dans un flou absolu. On ne s'engage pas dans quelque chose d'inconsistant, quelque chose de. On n'y voit pas clair, etc. Arriver à une certitude intérieure. C'est lui, c'est elle. Et mettre, comme je vous l'ai dit hier, tout mariage d'amour est un mariage de raison, mettre des mots qui vous pousse à choisir telle personne plutôt que telle autre. Alors, c'est important cette certitude intérieure. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de faire mémoire. Je ne peux pas dire, je n'avais pas à un moment donné la certitude que c'était lui, que c'était elle. Ça vous permet de faire mémoire. Ça vous permet de. Dans les moments de difficulté où vous ne pouvez plus encaisser l'autre, il vous exaspère, etc., toujours ronfler, etc., ou quoi qu'est-ce. Voilà, le fait d'avoir une certitude intérieure vous aide aussi à tenir dans les épreuves. Maintenant, c'est compliqué cet aspect-là parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent jamais à une certitude intérieure, qui sont dans une. Complètement indécise, une personne indécise. Il y a des psychologies comme ça, anxieuses. Mais pour tout, je veux dire, entre un pain au chocolat, un pain au raisin, mettre une demi-heure, quoi, à choisir. Donc, alors c'est sûr que déjà, rien que ça, si ça a des angoisses, au secours, quoi, je veux dire, bon. Alors forcément, s'engager, qui est le plus grand engagement de votre vie, de façon irrévocable et compagnie, c'est évident que c'est encore plus. Quelque part, c'est assez anxiogène, un mariage à l'église, d'une certaine manière. Le mariage en tant que tel est anxiogène, et encore plus à l'église, parce que ben voilà, c'est le côté sacramentel, le côté indissoluble du lien, etc. Parfois, certains, par exemple, C'est là où il faut voir au cas par cas, mais selon les psychologies, parce que ça rentre en ligne de compte. Hein, certains, en faisant le premier pas, arrivent à avoir une lumière. En faisant le premier pas, arrivent à être apaisés. Hein, premier pas, par exemple, vers des fiançailles. C'est là où le rôle de l'intelligence est important, parce que je trouve que le fait de mettre de l'intelligence dans ce qui manque beaucoup, il n'y a pas assez d'intelligence mise dans les relations amoureuses. On laisse ça simplement à l'émotionnel, mais le fait de mettre de l'intelligence permet de prendre une distance par rapport aux émotions. Elles sont là, les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Il ne s'agit pas de les mettre sous le boisseau ni rien, mais elles sont là, mais ce n'est pas elles qui vont gouverner ma vie. Je sais, du coup, d'où l'importance, on l'a évoqué, d'une connaissance de soi-même. Connais-toi toi-même. Hein, je sais que je suis de nature anxieuse. Bon, voilà. On ne choisit pas sa nature. Il y en a qui sont très confiants, il y en a qui sont très anxieux. Voilà, c'est inégalement réparti. Et du coup, c'est intéressant de dire, ben, de prendre une distance. De prendre une distance avec son intelligence par rapport à ses propres émotions pour pas se laisser submerger. Vous voyez, pour pas arriver à une manière de submerger, etc., qui vous empêcherait de prendre la décision. N'oubliez pas que le discernement vise la décision. Décision qui peut consister à dire, ce n'est pas mûr, on n'avance pas ensemble, on ne prend pas de décision. Mais ça vise toujours une décision. C'est ça le discernement, hein. C'est un aspect pratique. Ensuite, Saint Ignace de Loyola, Saint Ignace patron des coiffeurs, comme vous le savez. Bon, voilà, il fallait rire, c'est bien. Mais vous êtes un peu dans le coltard, là. Bon, bref, donc. Voilà, voilà, c'est bien. Tu vois, il faut expliquer les blagues, tu vois. Quand il faut expliquer les blagues aux retraitants, tu te dis, il y a quand même encore y a du boulot, quoi. On est. Et donc du coup, il dit, notre ami Ignace de Loyola nous dit, c'est bon, ça s'explique, hein, c'est bon, vous avez tout le monde s'explique les blagues. Waouh, ça va être chaud là, à mon avis. Bref, notre ami Ignace nous dit, si on n'a pas la lumière pour aller à droite ou à gauche, si on n'a pas... On reste là en attendant que Dieu veuille bien manifester sa volonté. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas l'engagement pour l'engagement. Ce n'est pas j'y vois pas clair, etc. Mais il faut faire quelque chose parce que je suis angoissé de ne pas voir clair, je veux avancer. Bon, c'est parfois d'une certaine patience aussi. Une certaine patience sans attendre des années et des années, etc. Mais une certaine patience dans votre relation qui vous permet aussi de. Peut-être à travers les événements, les personnes, les rencontres, etc., ce que vous allez vivre comme couple, faire émerger un peu une certaine certitude. Autre point qui est important au plan subjectif, donc du sujet qui discerne, c'est la rectitude d'intention. La rectitude d'intention, c'est-à-dire, ce n'est pas un engagement à laisser. Et je rajoute à ça que si s'affiche dans votre relation, le panneau END, END, fin en français, FIN, si s'affiche dans votre relation le panneau END, vous arrêtez. C'est-à-dire que, et ça, la rectitude d'intention, c'est dans une dimension chrétienne, ça c'est vraiment important de dire, si à un moment donné j'ai la conviction que ça n'ira pas vers l'engagement, j'arrête. Je ne continue pas simplement parce que ça c'est sympa d'arriver à deux dans les dîners ou ça me tient chaud en hiver. Non, non, j'arrête parce que la rectitude d'intention. Et c'est pas le, c'est-à-dire que on ne commence une relation amoureuse, en tout cas, sans jamais exclure le mariage. C'est là la différence par rapport à la réalité du monde où on voit des gens qui se mettent ensemble mais qui ne pensent absolument pas engagement. Vous, comme chrétien, nous, en tout cas, on fonctionne comme ça. On se dit, si on est dans une relation amoureuse, forcément, c'est qu'on ouvre la porte à l'engagement. Sinon, c'est pas une intention droite, il n'y a pas de rectitude d'intention. Vous voyez, c'est pas à laisser. C'est pas pour voir, c'est pas pour. De même, la question de la vie commune, etc., c'est pas pour voir, c'est quoi les motivations? Est-ce que c'est pour voir si on est raccord? Est-ce que c'est pour. Bon, y a un peu comme si on essaye une paire de chaussures ou une nouvelle voiture pour voir. Non, mais c'est pas très respectueux, je trouve, de l'autre. Donc, une rectitude d'intention, et avoir une intention droite. Au plan intérieur aussi, un autre aspect qui est important, c'est une vraie confiance et un abandon, hein, comme disponibilité intérieure. C'est-à-dire que une humilité de fond. On a beau Alors, forcément, dans une retraite, et puis on dissèque un peu les choses, donc ça peut paraître un peu austère de disséquer, de vouloir tout voir clair, etc. Mais vous ne ferez pas l'économie de l'abandon et à la providence et de la confiance. À un moment donné, il y a un lâcher-prise. Vous pouvez refaire dans votre tête 10 fois les listes de pour, de contre, de machin, etc. Bon, peut-être ça peut vous aider, mais à un moment donné, il y a un lâcher-prise et avancer dans la confiance, tout en étant rassuré que ça c'est pas complètement aberrant, en tout cas, vous voyez ça, mais voilà, de quoi sera faite la vie, vous n'en savez rien, vous voulez savoir avec qui vous voulez la vivre, c'est surtout ça qui est important. Ensuite, un autre point qui est important, c'est la paix et la joie intérieure. C'est-à-dire que dans votre relation, vous donne de la paix et de la joie. Vous êtes plus heureux depuis que vous êtes ensemble, hein, et la présence de l'autre vous donne de la joie, et l'absence de l'autre vous attriste. Si c'est l'inverse, du coup, faut partir en courant. Je veux dire, si la présence de l'autre vous attriste et son absence vous donne de la joie, bon, vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'est la joie intérieure, et là, une joie, une paix, et aussi une paix intérieure. Une paix intérieure, alors, parfois, les situations sont complexes, et vraiment où on sent que c'est compliqué, ça n'avance pas. Il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de doutes pour voir. Il y a eu des breaks qui ont été faits, chacun, un certain nombre d'entre vous ont fait des breaks dans leurs relations, etc. Ou alors, voilà, vous sentez que c'est pas du tout clair. C'est pas. Moi, j'invite à faire, je vous donne un moyen qui est très puissant au niveau du discernement, c'est ce qu'on appelle l'Isaac du cœur. L'Isaac du cœur, c'est pas de son, pas d'image pendant au moins 15 jours. L'autre ne fait plus du tout partie de votre vie. Et si vous êtes en vie commune, vous trouvez un pote chez qui squatter ou un ami, etc. Et vous allez, donc pas de son, pas d'image, et d'une certaine manière, vous allez au désert. Vous allez au désert, c'est-à-dire vous allez dans une. Vous intensifiez votre vie spirituelle. Vous intensifiez votre vie spirituelle, pourquoi pas, voilà, mais à la messe, tout en restant dans votre vie professionnelle, etc., dans votre logement, etc. Bon, vous diminuez les sorties, vous favorisez l'intériorité, les temps d'intériorité, les temps de. Voilà. Et vous remettez dans la prière, c'est une attitude spirituelle, c'est une démarche spirituelle, vous remettez dans la prière cette relation. Isaac, vous vous rappelez, hein, le sacrifice d'Abraham, etc. Dieu qui dit à Abraham, offre ton fils en sacrifice. Donc c'est Isaac, le fils de la promesse. Hein, voilà, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui? C'est certainement votre relation amoureuse. Donc vous voulez l'offrir au Seigneur spirituellement. Seigneur, si ce n'est pas de toi, enlève-moi le désir que j'ai de vouloir construire avec telle ou telle personne. Voilà, et de se remettre complètement dans le Seigneur, et de se laisser purifier, de laisser purifier aussi, parce que on a vu les motifs de l'amitié, mais il y a aussi une purification à avoir des motifs de l'amitié. La vie se charge de purifier aussi ces motifs, et je pense que c'est important, cette dimension d'aller au désert, de rentrer dans une dimension plus intérieure, plus spirituel, de pourquoi pas aller à la messe en semaine, pourquoi pas vous faire accompagner sur ce laps de temps de 15 jours, mais vraiment pas de son, pas, plus rien du tout, plus aucun contact, ni rien. Donc c'est quand même assez puissant, et vous voyez qu'est-ce qu'il en sort. Hein, et parce que vous êtes en même temps dans une grande incertitude, dans une grande intranquillité. Voilà. Et donc je trouve l'Isaac du cœur. Ça vous permet justement d'arriver justement à ce qu'on appelle la sainte indifférence. C'est ce que Ignace de Loyola appelle la sainte indifférence. La sainte indifférence, c'est-à-dire, alors les mots sont piégés, c'est pas être indifférent, c'est que arriver à une attitude intérieure qui fait que que ça se poursuive ou que ça s'arrête, si c'est du moment que ce soit la volonté du Seigneur. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que ça poursuive ou que ça s'arrête, quelque part vous arrivez dans les deux vous vont bien. Hein, et ensuite, donc, d'arriver à cette indifférence, à offrir cette relation, et ensuite à laisser émerger dans la prière, qu'est-ce qui remonte ensuite? Est-ce que ça remonte continuer dans cette relation? Est-ce que ce qui remonte, c'est y mettre fin? Oui, c'est un chemin spirituel d'abandon, de remise, d'offrir cette relation. De distance physique, voilà, au niveau contact, etc., une vraie distance, et de voir un peu qu'est-ce qui ressort de. Et alors, si vous pouvez vous faire accompagner pendant ces 15 jours, ce serait vraiment idéal, hein, une ou deux fois par semaine, mais du coup, de les vivre de façon intense, quoi, et que ce soit un lieu peut-être plus où vous allez en famille, par exemple, vous êtes plus dans une dimension. Ou avec des amis de votre premier cercle, voilà, des dimensions affectives aussi assez, voilà, rassurantes et puis encourageantes, voilà, diminuer le nombre de sorties, voilà, c'est rentrer tout en étant dans votre vie habituelle, rentrer en fait dans un temps de retraite et vraiment d'offrir cette relation au Seigneur. Donc, je trouve que c'est une autre chose qui est intéressante comme critère subjectif, donc toujours dans le sujet qui discerne, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, c'est ça, quoi, par rapport aux critères objectifs, c'est une certaine facilité à pratiquer ce à quoi Dieu nous appelle. Ça, je trouve ça vraiment important. Si dans la relation affective, il faut s'arracher les choses, chaque geste, prendre des gants à tout moment, marcher sur les œufs, nier une partie de sa personnalité, être dans la peur de perdre l'autre toujours et donc dans la volonté de mettre la main sur l'autre pour pas qu'il parte, etc. Ou que l'autre mette la main sur toi. Bon, vous vous dites, là, il y a quelque chose qui va peut-être pas. Hein, c'est une relation qui n'est pas amenée à durer. Parce que c'est une relation qui n'est pas mature, qui n'est pas assez approfondie, qui n'est pas assez adulte. Hein, donc avoir une certaine facilité. Je dis ça parce que, quand même, entre guillemets, vous en prenez pour au moins 40 ans, quoi. 40, 50 ans, bon. Et puis avec l'allongement de la durée de la vie, non mais c'est vrai, non, c'est une question, hein. Avant qu'on mourait à 40 ans, c'était facile. Mais maintenant, on meurt à 80, 85, et puis ça s'allonge, bon. Bon, donc, du coup, bah, c'est important que ce soit quand même qu'il y ait une certaine facilité, qu'il y ait une certaine. En tout cas, dans les débuts, il peut y avoir des moments un peu de tension complexe à gérer dans la vie. Bon, voilà, ça fait partie comme la vie communautaire. Mais qu'au début, il y a une certaine. Je sais pas, s'il y a un frère, par exemple, il y a un jeune qui vient discerner pour entrer dans la communauté, mais il faut se mettre à quatre pour le pousser dans l'oratoire à chaque office, bah oui, non, mais t'es peut-être pas à ta place, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une certaine facilité, qu'après 20 ans, 30 ans, bon, les offices, toujours à la même heure, ça te gave, etc. Bon, c'est possible. Mais tu as aussi 30 ans d'expérience, c'est pas pareil. Mais c'est en tout cas dans les débuts, une certaine facilité, une certaine enthousiasme à vivre les choses, c'est quand même très important, cet aspect-là. Si déjà, soit par exemple des couples, moi j'étais très perplexe, hein, qui consultent déjà des conseillers conjugaux. À l'étape où vous êtes. Pour moi, conseiller conjugal, c'est qu'on a un problème. Si déjà tu es là à avoir un conseiller conjugal parce que c'est difficile, parce que. Je sais pas, moi, ça me paraît. Bon. Ça me paraît compliqué, quoi. Ça me paraît compliqué, je me dis, c'est mal emmanché, quoi, comme relation, quoi. Et puis. Autre chose aussi un autre point que nous donne Ignace de Loyola, c'est qu'il nous dit ne pas remettre en cause au moment de la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière. Ça m'a été d'une grande utilité dans ma vie religieuse. J'ai eu une grande certitude au moment de rentrer dans la congrégation, une grande clarté, une motion du Saint-Esprit. Moi, j'analyse comme ça. Et en même temps, des moments de combat pour rester fidèle. Des combats liés à ma vie personnelle, liés à la communauté, voilà, des moments pas forcément faciles, voilà. Mais du coup, ne pas remettre dans la tempête en cause ce qu'on a discerné en pleine lumière. Si vous avez eu cette certitude intérieure, etc., mais que c'est sûr qu'il peut y avoir un coup de stress avant le mariage, par exemple, la semaine avant, etc. Il peut y avoir un coup de stress, quelque chose de difficile, quelque bon, parce que t'es pris un peu, t'es saisi par le côté, il y a un côté vertigineux. Alors, nous sommes la religion du vertige. Je veux dire, la religion chrétienne est une religion de vertige. C'est-à-dire que tout nous dépasse, tout est quelque part démesuré. Tout est démesuré. Parce que c'est la religion justement de l'incarnation, de la présence d'un Dieu dans la nature humaine. Je veux dire, mais rien que ça, c'est démesuré. Donc, de dire ben, un oui pour la vie dans la fragilité de votre jeunesse, etc., c'est énorme. Alors que vous êtes entouré de tout l'inverse. Autour de vous, c'est exactement le rebours. Donc, si tu ne le sens pas, n'y va pas. Ceci, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire. De pas remettre, vous pouvez avoir des moments de pas remettre dans la tempête ce qu'on a discerné en pleine lumière, si vous êtes arrivé comment dire, à une certitude intérieure, si c'est bon, voilà, il peut y avoir il peut y avoir un combat, hein, il peut y avoir aussi un combat spirituel, ça on n'en parle pas assez du combat spirituel, hein, le fait que il peut y avoir un combat intérieur pour continuer à avancer dans telle relation ou telle autre. Ou certainement dans la vie, une fois dans la vie matrimoniale, il y a certainement des combats aussi intérieurs. Bon, voilà. Ensuite, un autre point, c'est l'expérience d'une certaine disproportion. L'expérience d'une certaine disproportion. Cela nous dépasse, mais je suis appelé. Cela me dépasse, mais je suis appelé. C'est-à-dire que c'est vrai aussi, nous sommes la religion de la disproportion, quoi. Il y a quelque chose qui est complètement transcendant, qui est pas simplement du domaine naturel, humain, etc. Il y a une vraie dimension sacrée dans le mariage tel que l'Église le conçoit et comme Jésus nous l'a enseigné. Voilà, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et ça, c'est Jésus a été très clair sur cette dimension-là. Hein, donc, vous pouvez être parfois saisi intérieurement de dire, wow, c'est quelque chose d'énorme. Oui. Et à la fois, justement, doté du sacrement, doté de la grâce de Dieu, etc., vous êtes amené à vous engager, ou après discernement, dans ça. Voilà, tout nous dépasse, encore une fois, tout est disproportionné dans la vie chrétienne. Tout est disproportionné. C'est vraiment la religion de la disproportion. Parce que quand tu penses ne serait-ce que le baptême, ce que c'est, par exemple, voilà, la présence de Dieu. Avec quelques gouttes d'eau sur le front d'un enfant, la présence de Dieu, l'appartenance à l'Église, etc. Tout ça, avec un geste tout simple. Moi, je suis très marqué, par exemple, dans ma vie de prêtre, par la pauvreté des sacrements. C'est très pauvre, un sacrement. Alors, on enrichit, on met les chants, on met les machins, ben voilà, mais quand tu regardes le cœur même du sacrement, c'est pauvre, c'est modeste. Hein, c'est un peu de pain, un peu de vin, c'est un peu d'eau sur le front d'un enfant, et l'huile consacrée sur la peau d'un malade, sur voilà, quelques paroles entre deux jeunes au début de leur vie, etc. Bon, et c'est tout le ciel qui s'ouvre, c'est ça la vie chrétienne. Hein, c'est vivre cette disproportion. Ce qui laisse la place aussi à une espérance. Tu vois, on n'est pas réduit au face-à-face de nos psychologies blessées. On n'est pas réduit au face-à-face de nos psychologies blessées. Et ça, je pense que le fait d'avoir une dimension sacrée, justement, ouvre, d'avoir une verticalité, d'avoir une transcendance, ouvre justement à une espérance. Et ça, je pense que c'est la différence par rapport à d'autres manières de concevoir le mariage. Ensuite, pour terminer ces aspects subjectifs, il y a les signes. Alors les signes, je les ai mis à la fin, comme une charnière entre les aspects subjectifs et les aspects objectifs. Les signes. Alors, pour que ce soit un signe, il faut plusieurs choses. C'est-à-dire que il faut à la fois que ça fasse signe pour vous, mais aussi que ce soit quelque part validé par quelqu'un qui est né dans la foi. Par exemple, je me rappelle que ça, des jeunes comme ça qui, une retraite, nous on ne fait pas ça, mais parfois il y a des retraites où vous tirez des paroles de Dieu. Vous n'allez pas me croire, mon père. Vous n'allez pas me croire. La même parole de Dieu. Ce n'est pas un signe qu'on doit se marier? Oui, peut-être. Peut-être elles étaient déjà collées avant, j'en sais rien. Mais et donc, du coup, vous avez des clochers. J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a tué les paroles de Dieu avec de la confiture dans les doigts. Du coup, ça c'est. J'en sais rien. Oui, peut-être, oui. Mais ce n'est pas suffisant, quoi. Je veux dire, ce n'est pas juste parce qu'on tient la même parole de Dieu que c'est un signe. Ah, mon père, on s'est rencontrés, je m'en rappelle, hein, on s'est rencontrés dans la foyer de charité, forcément. C'est... Non. Oui, il y a des signes. Oui, il y a des. Mais ça doit être validé dans la foi. Ça doit être validé par quelqu'un. Voilà, c'est. Je veux dire, des signes pour ne pas mettre tout sur sa déclaration d'impôt, on en a beaucoup. Hein, et, mais je ne suis pas sûr que l'inspecteur du fisc soit sensible à tous ces signes-là, quoi. Mais parce que, justement, on met des signes. Genre, mais non, mais attention aux signes, c'est. Oui, il y a des signes, mais pareil, il faut que ça fasse signe pour la personne. Et je vous donne un exemple tout à fait dans un autre domaine. Lors d'une ordination, il y a eu un arc-en-ciel. Pour les gens qui étaient à 20 km, qui n'étaient pas du tout sur le lieu, pas au courant de l'ordination, moi, ils disent c'est un arc-en-ciel. Mais pour ceux qui ont été dans la célébration, ils ont, vous savez, l'arc-en-ciel avec Noé, etc., ça, dans la Bible, c'est le signe de l'alliance, l'arc-en-ciel. Et là, ils ont vu là un signe. Bon, voilà, c'est le signe, c'est quelque chose qui est à la fois pour celui qui le reçoit, qui est aussi un signe, c'est une des conditions pour que ce soit signe, mais on dit oui, mais peut-être, c'est, en tout cas, c'est une certaine manière de regarder, quelque part avec un regard de foi, c'est ce phénomène qui est un phénomène naturel, l'arc-en-ciel, c'est la décomposition par le soleil de gouttes d'eau, etc., et donc c'est la lumière qui... Il y a le spectre de la lumière qui, voilà, c'est ça, on peut dire, l'aspect beaucoup plus technique, etc., de l'arc-en-ciel. Hein, mais d'autres diront, bah, pour moi, ça a été un signe. Ça. Mais vous voyez, ce n'est pas qu'avec, on ne peut pas prendre des décisions qu'avec des signes. Les signes, je trouve, sont là pour conforter, pour encourager. Mais voilà, attention de ne pas trouver des signes qui nous arrangent trop à prendre la décision dans le sens où on veut, etc. Alors ça, c'est les critères, oui.
Mais justement, le fait de voir un signe, est-ce que c'est pas une preuve que ça, enfin, ça va avec notre volonté, en fait?
Ah, est-ce que c'est pas une preuve? Est-ce que voir un signe, c'est pas une preuve que ça va avec notre volonté? Ça encourage. Moi, je trouve, voilà, le jeune qui a été ordonné, etc., il voit un arc-en-ciel. Voilà, maintenant il aura 50 ans de vie sacerdotale à la vie. Je veux dire, il n'y aura pas des arc-en-ciel tous les jours, quoi. Donc, non mais... Oui, ça rencontrer là, ça peut les encourager, mais tu veux, ça ne, encore une fois, ça ne suffit pas, n'absolutisez pas, quand je dis, j'ai pris le soin de préciser, n'absolutisez pas un des critères. Je pense que ça fait partie d'un certain nombre de critères, c'est un faisceau d'indices qui vous faut un peu comme un enquêteur, voilà. Mais bon, oui, ça peut être juste un encouragement. Vous voyez comme un signe, vous êtes rencontrés, ceci, c'est passé cela, bon voilà. Bon, pourquoi pas. Maintenant, c'est, on ne base pas que sur une chose, je trouve. Ça peut être juste un encouragement du Seigneur, vous voyez comme une providence, vous voyez comme, voilà. Mais ce qui n'empêche pas la réflexion et le discernement, voilà. Donc, ouais, c'est pas, ça peut être de l'ordre de l'encouragement, je trouve, le signe. Mais ça met en route, ça peut mettre en route. Mais c'est important que ce soit relayé ensuite par des personnes aînées dans la foi qui vous accompagnent. Parce qu'on a vu la question du conseil, etc. Bon, ce soit relayé, je pense que c'est. Parce qu'ensuite, vous oubliez, puis voilà, si c'est que sur un signe que. Voilà, ça vous met en route, ça fait partie des éléments. Moi, je crois à Dieu qui agit dans l'histoire, je crois tout à fait, ça, j'y crois à fond, hein, ça, que Dieu se manifeste dans notre histoire avec un grand H et dans nos histoires, avec un petit H, nos histoires personnelles. Certainement, moi, j'y crois. Hein. Et donc, donne des signes de sa présence. Voilà, maintenant, ça fait partie d'un des éléments, quoi, c'est tout. Critère maintenant, objectif. Objectif, c'est-à-dire des critères qui sont Objectare, c'est jeter devant, qui sont extérieurs, qui peuvent être vus par tout le monde. Si le désir, donc voilà, qui peuvent être, qui sont objectifs, c'est-à-dire que tout le monde peut constater. Si le désir est un critère subjectif, la durée du désir est un critère objectif. Hein, s'il y a quelque chose qui revient dans votre cœur régulièrement, etc., c'est un critère objectif. Hein, je pense par exemple à ce prêtre qui voulait, diocésain, qui voulait rentrer dans la vie monastique. Bien, il va voir son évêque, dit, je veux rentrer dans la vie monastique, etc., etc. L'évêque lui dit non. Ben non, surtout que bon, c'était un prêtre rayonnant, etc. Ben lui, c'est un prêtre qui n'est pas trop, voilà, machin, mais bon. Bon, on est peut-être plus ouvert à des changements, mais bon, bref, toujours est-il que un prêtre rayonnant, qui est équilibré, qui fait du bien, etc., ben, on ne veut pas trop le laisser partir, quoi. C'est un peu raide, mais c'est comme ça. Donc, il dit non. Première année, il revient l'année d'après. Mais Monseigneur, je voulais rentrer à la vie monastique. Non. Et il revient à la troisième année, ils font vœu d'obéissance, les prêtres diocésains, hein, donc à leur évêque. Il vient avec cette même demande. Et là, quand même, l'évêque dit, je sais que c'est un homme qui a du discernement, qui accompagne des gens, qui fait du bien, etc. Si pour la troisième fois il me fait sa demande, il ne faudrait pas que je me mette en guerre contre Dieu, d'une certaine manière, m'opposer au désir de Dieu dans son cœur, quoi. Et donc voilà, donc il a dit, voilà, il y a toute une procédure pour passer de la vie de prêtre diocésain à moine. Donc c'est possible, bon, c'est assez rare, mais c'est possible. Bon, ça peut être aussi une tentation. Hein, quand on est dans le ministère de la paroisse, débordé par 15 réunions par jour, etc., bon, on voit la vie monastique pratiquement comme le paradis sur terre, quoi. Hein, et alors que, bon, on y est, parfois, c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça peut l'être, mais à certains jours, mais à certains jours, non. Mais donc, ça demande, voilà, ça peut être de l'ordre de la tentation, ça peut donc. Voilà, donc la question de la durée du bon désir, c'est intéressant de voir que vous persévérez, vous duriez, ça soit quelque chose, bon. Ensuite, la présence de l'Église, bon, alors, bon, c'est sûr que dans la dimension du mariage, elle est moins présente que dans, évidemment, les ordinations ou les vœux religieux, mais. Je trouve, moi, je regrette, j'aspire, j'appelle de mes voeux à ce que cette question de discernement se répande dans l'Église, dans les paroisses. On est en train de réfléchir avec un curé, là, le curé de Compiègne, comment est-ce qu'on peut, avec les paroisses, parce que du coup, c'est aussi un autre public que vous, c'est une autre réalité que vous, etc. Voilà, leur offrir un temps de discernement aussi, parce que voilà. Donc, même si aujourd'hui de ce que je sais, en tout cas, le curé ne peut pas s'opposer à un mariage, surtout s'il s'agit de personnes qui sont dans sa paroisse. Il ne peut pas s'opposer. Quelque part, le mariage est un droit des baptisés. Vous savez, juste un point technique, mais vous êtes les ministres du sacrement. Hein, vous vous administrez le sacrement. On dit, mais c'est abusif, on dit tel prêtre nous a mariés, tel prêtre. Non, les prêtres ne marient personne. Le prêtre est là comme témoin. Oui. Alors, s'il est, il peut refuser de marier un couple, oui, certainement. Mais s'il est curé, la question c'est que s'il est curé, vous faites la différence entre moi, je suis prêtre, mais je ne suis pas curé. Curé d'une paroisse. Il ne peut pas refuser le mariage, disons, sauf s'il a des preuves absolument claires que. Il y a eu des violences, il y a eu des soucis, des faits graves connus de la communauté. Du coup, il peut s'opposer à ce mariage-là. Mais un prêtre peut très bien refuser de célébrer un mariage, voilà, qui est en dehors de. Oui, ça, bien sûr qu'il peut refuser ça, c'est pas une difficulté. Mais le curé de paroisse, c'est pas pareil. Les mariages qui ont lieu dans sa paroisse, pour qu'il refuse, il faut qu'il ait quand même il faut qu'il ait des billes, quoi. Qui disent, voilà, et donc ça veut dire qu'ils connaissent les fiancés, qu'il est passé du temps avec eux, ce qui est rarement le cas. Il y a rarement un contact personnel, quoi. Ou que les accompagnateurs, ils disent, bah, écoutez, on vous montre telle chose parce que ça nous paraît vraiment problématique. Je sais pas pourquoi, il y a eu déjà des tromperies à l'étape de préparation. Bah oui, là, pour le coup, je stoppe. Moi, j'ai deux trucs où je stoppe tout de suite. Tromperie et violence physique. Et j'ai eu dans les deux cas à dire, moi j'arrête. Mais l'avantage, moi, je ne suis pas curé. Eh oui, c'est-à-dire que ceci, c'est, je suis libre et l'autre aussi est libre. D'aller se faire préparer ailleurs, il y a 10 000 prêtres, je ne sais pas combien il y a des milliers de prêtres en France, ben aller voir d'autres prêtres. Puis voilà, puis moi je suis libre aussi de dire, ben écoutez, je me retire de cette préparation. Mais bon, pour un prêtre, en tout cas, c'est un curé, c'est compliqué de dire non à un de ses paroissiens de se marier dans la paroisse. Sauf s'il a des billes, sauf s'il a vraiment des choses compliquées. Voilà. Ensuite, comme critère d'objectif, je trouve la question des circonstances et des nécessités. J'aime bien cette phrase du philosophe Pascal qui dit « Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. » Et je trouve ça vraiment intéressant, ça. D'une certaine manière, parfois, il y a des unions qui ne peuvent pas aboutir uniquement par les circonstances de la vie. De déplacement professionnel, quelqu'un qui a décidé d'aller vivre à l'étranger, mais avant même de, voilà, alors que vous commenciez votre relation, ben du coup, ce sera vraiment compliqué de construire quelque chose à des milliers de kilomètres de distance, ou voilà, des circonstances qui font que des choses que vous n'avez pas choisies, qui s'imposent à vous, voilà nos maîtres spirituels. Je me souviens avoir accompagné un couple, vraiment des belles personnes, elle est australienne, et puis lui français, etc. Assez lié à la communauté de l'Emmanuel. Mais c'était. Elle vivait en France, donc loin de l'Australie, la France est quand même pas d'à côté. Ensuite, loin de sa famille, elle avait quand même de la difficulté à parler français. La difficulté, c'est que ça faisait entonnoir. C'est-à-dire, il faut faire attention aux relations en entonnoir. C'est-à-dire, aux relations, en fait, son contact avec la France passait que par son ami. Du coup, comme elle ne connaissait pas la question de la mutuelle étudiante, elle était étudiante. Hein. Elle faisait français comme langue étrangère. Et donc, une fille de qualité, etc. Tout, elle dit, ben voilà, je sais pas, je suis malade. Du coup, elle appelait son ami, tu peux m'appeler un médecin. Tout passait. Voilà, c'est ce qui faisait que. Et puis, il y avait une question de visa, il y avait une question. C'était tellement complexe qu'à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est vraiment. Mais les deux, c'est vraiment des belles personnes. Mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? L'autre peut être une belle personne sans être appelé à faire une vie commune avec. Vous comprenez? Je pense que. Parce que les circonstances, si ils étaient deux Australiens, peut-être ils seraient mariés, ou elle française, elle serait en mariage. Mais les circonstances ont fait qu'ils se sont connus dans ce cadre-là, dans cet éloignement, avec des questions de visa, bon, c'était assez compliqué. Voilà, donc ces circonstances et les nécessités. Demander bonana. Ah, la formation spirituelle, c'est vrai que ça aide au discernement. La formation, vous formez. Alors, je sens quand même pas mal que vous êtes, qu'il y a pas mal de cathos pratiquants là au mètre carré ici. Là, je pense, il y en a. Bon, vous êtes assez relativement bon. Mais bon, je vous dis ça parce que je trouve parfois parmi les jeunes pros, il y a un gap entre votre formation. Professionnelle et votre formation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gap entre les deux et que vous êtes bac plus 15, etc. Bon, voilà. Mais est-ce que vous avez pris compte, vous lisez des livres spirituels, est-ce que vous êtes formé, sachant qu'il y a énormément de possibilités. Participer à une conférence, il y a Even aussi qui offre un parcours, il y a le parcours Alpha aussi qui est très bien pour ceux qui reprennent contact un peu avec l'Église et voilà, de revisiter leur foi, c'est en fait une sorte de catéchisme pour adultes. Bon, il y a énormément, je trouve, par rapport à ma jeunesse, il y a beaucoup plus de propositions maintenant. Ben ça, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus l'Église de France est quelque part beaucoup plus dynamique. Elle est plus pauvre, mais elle est plus dynamique, quoi. Donc voilà. Donc du coup, moi, je vous invite. Pourquoi ça aide à vous former? Le fait de vous former, parce que déjà vous avez des bonnes intelligences, vous avez une formation. Pratiquement tous, vous avez fait des études supérieures, vous avez une formation intellectuelle, etc., professionnelle. Le fait de vous former, ça donne des principes universels, justement, pour choisir ça. Ça éclaire votre intelligence et du coup, ça aide au discernement. Voilà, soyez attentifs à ça. Ensuite, C'est vrai que si l'on veut discerner la volonté du Seigneur, c'est important de commencer par une vie chrétienne, j'allais dire, assez sérieuse, quoi. C'est peut-être que cette relation, posez-vous la question, est-ce que ça ne vous booste pas aussi bah, là aussi, c'est un critère, moi, je trouve. Est-ce que cette relation vous rapproche du Seigneur ou vous en éloigne? Ça, je trouve ça vraiment un vrai critère, ça, c'est... Est-ce que ça vous rapproche de une vie spirituelle, d'approfondir votre vie de foi, ou ça vous éloigne? Est-ce que l'autre vous éloigne de Dieu? Si l'autre vous éloigne de Dieu, ben là, il y a un warning très clair qui s'allume, et c'est en mode sapin de Noël, quoi, tu vois. Donc, voilà, et donc, du coup, posez-vous la question, une vie chrétienne sérieuse, je trouve ça important, justement, qui est justement une vie d'une pratique, de prière, de... là aussi, essayez de voir où est-ce que vous pouvez, je sais que c'est difficile, mais de mettre en place une vie de prière entre vous. C'est le partage d'une vraie intimité. Hein? L'intimité spirituelle, c'est certainement le partage d'une vraie intimité. Et puis, avoir les aptitudes requises. Hein, le dernier point, les aptitudes requises. Ça fait partie des questions que l'évêque pose au candidat à l'ordination diaconale ou sacerdotale. A-t-il les aptitudes requises? Et quelles sont les aptitudes à avoir dans le mariage? Ben, je trouve qu'il y a plusieurs aptitudes. Premièrement, l'aptitude à la fidélité. S'il y a déjà des coups de canif dans le contrat, s'il y a déjà de... Vous n'êtes pas du tout apaisé, par exemple, dans votre sexualité. Vous n'êtes pas, vous êtes sans cesse. Je pense que ça, c'est très important. En tout cas, que quand on est dans une relation amoureuse, il faut baisser le périscope. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de regarder sur le marché qu'est-ce qui est-ce qui est, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux, quoi. Sinon, ouais, ça c'est manque de rectitude d'intention, ça. Si tu es en train de regarder, ah bah tiens, ah bah tiens, celui-là, bah, peut-être celui-là. Non. Tu vois, il faut baisser le périscope. Bon, si tu romps, bah, tu remontes le périscope, tu vois ce qu'il y a un peu sur le secteur, etc. C'est à peu près potable. Bon, voilà. Et faut baisser. Mais c'est important de, voilà, d'avoir l'aptitude à la fidélité, voilà, de vivre de façon apaisée. Voilà, c'est... Ensuite, l'aptitude à la vie commune. Et là, il y a un point qui est délicat. Bon, c'est tout ce qui est les difficultés psychiatriques. Des personnes qui ont une pathologie avérée ou d'anorexie ou de voilà des pathologies psychiatriques avérées, etc. Là, par exemple, cette semaine. Pas plus tard que cette semaine, moi j'ai dit, moi je n'accompagne pas ce couple-là, parce que lui, je sais, il sentait qu'il... Si tu veux, ce qui est compliqué, c'est en même temps une personne brillante intellectuellement, qui a un gros poste, mais on sent qu'il a un pet au casque. Tu vois. Il a... J'ai dit, t'as un pet au casque, il y a quelque chose, t'as une connexion réelle qui n'est pas complètement... Et la fille le sentait. Mais personne ne lui avait jamais dit. Moi, j'ai eu accompagné, mais du coup, je m'en suis voulu parce que j'aurais dû être beaucoup plus ferme. J'ai toujours regretté d'avoir été trop bon, en fait. Donc, un couple aussi. Bon, lui, pareil, officier supérieur, etc. C'est ça qui trouble un peu. C'est troublant. Des gens avec des vraies capacités, bon, reconnues par leur père, etc. Mais du style, pendant 3 jours, ils pouvaient rester en silence. Mais même pas passe-moi le sel, hein. Non, non, pensez aussi à une chose, c'est quand vous choisissez un conjoint, potentiellement vous choisissez un père ou une mère pour vos enfants. Vous imaginez un petit, un enfant, il parle à son père pendant 3 jours, il lui répond même pas. Non, mais il y a un problème. Et du fait, là, ils sont en instant de divorce, ça fait 1 an qu'ils sont mariés, à 2 ans même pas. Tu vois? Et je l'avais prévu, la fille. Mais tu vois, j'aurais dû exiger une expertise psychiatrique, un truc comme ça. Parce que c'est, à mon avis, hein, oui.
Oui.
Essaye
de se marier,
Oui, alors. Oui, mais je peux m'op... Oui, tu as une autre question? Voilà, ben ça c'est tout en même temps, c'est compliqué à mon avis. Oui, alors,
Pas si
ben oui, ben oui, ben c'est une question. Alors, juste pour répondre à ta question, le prêtre peut pas. Moi, dans mon cas, comme je dis, je suis pas curé. Mais il se trouve que donc du coup, j'aurais dû demander une expertise psychiatrique, parce que une vie, déjà, c'est pas forcément facile la vie commune, c'est-à-dire ma vie, quelqu'un qui a un problème psychiatrique. Waouh! Les difficultés psychiatriques, c'est entre autres, ça casse la relation. À la différence du handicap mental, des personnes handicapées mentales qui sont en recherche de relation. Les personnes qui ont des difficultés psychiatriques cassent la relation. Et alors, question, donc, on peut s'opposer. Moi, je pense que ça fait partie des choses pourquoi on dit la personne n'est pas libre. Et du coup, il faut arrêter. Oui. Oui. Ah, est-ce qu'il ne faut pas faire ce travail en... Bon, voilà, ce que je vous dis, voilà, c'est ça, en amont. Mais non, c'est... C'est pas parole d'évangile, je veux dire, peut-être après dire autre chose. Puis c'est pas la position de l'Église. C'est plus ma position personnelle et portative, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est une question, il y a des personnes qui sont blessées, qui ont des difficultés, mais avérées, je veux dire, diagnostiquées. C'est compliqué. Moi, je trouve ça. En tout cas, je ne me sentirais pas d'accompagner un couple dans cette. Ou alors, on est dans une relation d'aide. J'ai de l'autre qui a une difficulté, qui est schizophrène, qui est ceci. Mais faut vivre ça. Et puis, comment ensuite le rapport aux enfants? Je veux dire, déjà, c'est pas simple qu'on a à peu près moyennement fou, j'allais dire, comme moi. Je suis moyennement dans la moyenne de. Voilà. Mais pas plus que pas. Mais quand on a une pathologie, ça veut dire que oui, je trouve que c'est compliqué d'envisager une vie commune. C'est peut-être raide, hein, ce que je dis, hein, mais maintenant il peut y avoir des degrés, il peut y avoir des traitements, il peut y avoir. Voilà. Et puis alors, attendez, parce que ensuite, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous ne restez pas là. Un dernier point. Bon, c'est avoir une certaine. Il faut le dire parce que vous avez la messe. Moi, j'ai la messe ce soir à Compiègne, donc je ne serai pas avec vous. Mais avant-dernier point, bon, évidemment, avoir un certain goût pour les enfants. Je veux dire, si la vue d'un nourrisson vous donne le haut de cœur et vous, voilà, vous met dans des états d'écœurement tel, etc., bon, vous dites, bon, voilà, bon, ça, c'est pas grave. Et puis, un point qui est important, moi, je ne commence pas une préparation au mariage tant que le garçon n'a pas une vie professionnelle stable. Alors vous me direz, le garçon, mais pourquoi pas la fille, etc. Tout de suite, je vous entends là, déjà crier là-dessus. Parce que je suis un gros macho, déjà, premièrement. Puis deuxièmement, parce que j'ai accompagné des couples où la fille n'avait pas de. Mais ce n'était pas amené comme une souffrance. C'est-à-dire que j'ai constaté, il y a des couples où le garçon avec une vie professionnelle stable, donc de pouvoir faire vivre sa famille, et que la fille était en reconversion, etc. Mais ce n'était pas une difficulté pour le couple. Et alors que l'inverse, je l'ai clairement vu. C'est-à-dire que où le garçon, je me rappelle un garçon de 38 ans qui, ça fait la troisième fois qu'il a une période d'essai qu'il enchaîne, la fille, elle dit, moi, c'est impossible de me marier avec quelqu'un, je ne peux pas présenter quelqu'un comme ça à mes parents, c'est impossible. Oui? Oui? Bah, disons, le fait de pouvoir, qu'est-ce que ça traduit, le fait de ne pas avoir une vie professionnelle stable? Oui, en tout cas, c'est apporté. Je trouve, alors c'est peut-être social, c'est peut-être tout ce que vous voulez, etc., mais c'est vécu par le couple différemment. Quand on sent que le garçon a du mal à se stabiliser dans sa. C'est certainement social, hein, dans sa vie professionnelle et vie d'allocation, vie d'expédient, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce garçon qui a 38 ans et qui a sa troisième période d'essai, ça veut dire quoi? Même au plan matrimonial, ça veut dire quoi de la... Parce que le travail, c'est super important. Je veux dire, c'est... Voilà, bon, vous pouvez très bien... Encore une fois, c'est une position personnelle, c'est pas la position de l'Église, etc. C'est une position comme les questions... On peut très bien... En tout cas, moi, dans ma manière de procéder, bon, je trouve ça vraiment important de... que le garçon est... Alors, si les deux... Alors, maintenant, il y a des gens qui sont... J'ai accompagné un couple d'internes en médecine. Alors, c'est sûr, ils n'ont pas de vie professionnelle, bon, mais personne n'est vraiment inquiet pour leur avenir professionnel, quoi. Je veux dire, bon, il y a des gens qui sont à des études longues, etc., bon, ou qui sont encore étudiants, mais quand on sent une instabilité après plusieurs années, quelle autre instabilité ça dit? Et ça peut être aussi pour la fille, quelle autre instabilité ça peut dire?